De grootste kino om Radio 100,7.
Dat heute as e grosse Kinospezial mat Interviewe vu Cineasten, denen ma um rezente Luxfilmfest begeint sinn. Den Amerikaner Ira Sachs, Präsident vun der internationaler Jury, de Mauritanier Abderrahman Sissako, dem se neue Film Black Tear lo am Kino ugelaw ass, an dann de chinesischen Dokumentarist Wang Bing, mat dem er wëll nufänken. D'Lëtzebuerger Co-Produktion Jeunesse Printemps, déi Orlo am Kino left, ass den éischten Deel vun enger Trilogie iwwer die schwere Arbeitskonditionen an der chinesischer Textilindustrie. Fën e Joer lang huet Wang Bing e Grupp vu jonke Leit vunem die 20 gefilmt, déi aus hirer Provinz kom si fir de Grof vun hirer Zäit an de sëllege klengen Atelien ze verbrengen. Et gëtt immens viel an intensiv geschafft, et gëtt man Patra ëm mi héich Speier gestridden, et gi sech Gedanken iwwer Zukunft gemet, an da gëtt awoch gegext a gekohlt. Mein Name ist Michel Delage. Viel Spaß mit Wang Bing. Monsieur Wang, bonjour. Dans les films de fiction qu'on voit normalement au cinéma ici, les gens sont filmés pendant leurs loisirs et ils travaillent un petit peu. Si on les voit travailler chez vous, c'est exactement l'inverse. Les gens travaillent surtout et même il n'y a pratiquement pas de loisirs ou s'il y en a, ils se confondent avec le travail.
Effectivement, le travail de tous les jours, c'est assez fatigant et il faut beaucoup d'efforts, il faut mettre beaucoup d'engagement.
Il y a un film américain, un documentaire qui est sorti il y a 2 ans, qui faisait partie des nominés aux Oscars, Ascension de Jessica Kingdon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui montrait, disons, le système productif chinois d'une manière globale, où les ouvriers et les ouvrières n'étaient que des rouages. Tandis que vous, vous faites l'inverse, vous vous intéressez à des individus et vous ne cherchez pas à décrire, disons, un système global.
De faire un film, pour moi, je préfère les aspects individuels. Je préfère l'histoire du personnage et pas l'histoire de l'auteur. Alors, le documentaire, c'est un moyen où le réalisateur réalise ses idées et donc chaque réalisateur a ses idées différentes. Et puis pour moi, c'est de montrer l'histoire d'un individu. C'est-à-dire, à travers des images, je voudrais montrer les mondes des individus, comment ils vivent dans le monde entier. C'est pour ça que je ne fais pas de film d'un point de vue collectif. Bien sûr, c'est ma façon personnelle.
Donc vous avez filmé certains de ces nombreux ateliers dans cette ville où on produit énormément. Jili, je crois.
Jili.
Et donc on a affaire avec, disons, 2 douzaines de personnages qu'on reconnaît tout au long du film, qui fait 3h30. Donc on a le temps de se familiariser avec eux. Surtout des très jeunes gens, ce sont des gens autour de la vingtaine. Et on se dit que ces gens-là, évidemment, ils ont la capacité de travail. C'est pour ça qu'on les engage, c'est pour ça qu'ils viennent. Mais c'est aussi, disons, un lieu de rencontre, pratiquement.
Alors, en Chine, en fait, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est la vie quotidienne de devoir se déplacer dans des zones où l'économie est meilleure que des autres et d'essayer de vivre avec le travail. Dans le travail, la plupart du temps, on peut observer dans le film Jeunesse, c'est la procédure des jeunes qui vieillissent. Donc, ce sont des jeunes qui deviennent de plus en plus âgés. Et dans la première partie printemps de ce film, on voit déjà dans les jeunes comment est leur monde individuel et aussi leur relation amoureuse. Et on découvre plus la partie jeunesse de ces gens-là.
Et
maintenant, on est en train de travailler sur la deuxième partie et la troisième partie, et donc ça va être rien à voir avec la première partie. Alors cette année, on va plutôt voir la deuxième partie, et quand on finit la deuxième et la troisième partie, on va voir l'ensemble de ce film. Maintenant, on voit dans la première partie du film, c'est plus le monde individuel, les sentiments d'amour, etc.
Alors vous êtes né en 1967, donc c'était au début de la révolution culturelle. Vous étiez évidemment trop jeune pour faire partie des gardes rouges, mais vous avez vécu en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, les conséquences de la révolution culturelle, de cette période sanglante. Si vous regardez les jeunes que vous avez filmés maintenant, quelle est la différence fondamentale entre ces jeunes-là et le jeune homme que vous avez été à l'époque ?
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Malgré la différence de génération, je trouve que le destin des gens est relativement similaire. Lorsque vous avez parlé de carte rouge, en fait, à l'époque, c'était la tendance des gens qui ont les parents au pouvoir, qui participent. Et donc maintenant, si vous regardez les jeunes, s'ils ont toujours des parents au pouvoir, ils ne travaillent pas comme les jeunes de l'époque non plus. Parce que, en fait, les gens qui participent à la carte rouge, ce n'étaient pas des gens ordinaires dans la société. Ce n'est pas la collectivité qui fait la carte rouge. Maintenant, les enfants des parents qui tiennent le pouvoir en Chine, dans quelle classe sociale ils se situent, je ne sais pas. Dans quelle vie ils vivent, je ne sais pas. Donc on ne peut pas vraiment comparer.
Je pense que ce ne sont pas les jeunes que vous montrez dans votre film qui viennent de leur province pour travailler très durement. L'image ici en Europe, je crois, de jeunes, enfin de travailleurs, d'une armée disciplinée de gens qui travaillent, qui ne font que travailler. Effectivement, ils travaillent énormément, mais il y a quand même le sens de la solidarité. C'est des petites unités d'une vingtaine de travailleurs et de travailleuses qui s'organisent aussi pour négocier des salaires à la hausse. Donc est-ce que pour vous, c'est peut-être aussi le début d'une autre conscience politique qui est en train de se développer?
Le contrôle, enfin l'image que vous avez parlé tout à l'heure pour la discipline comme dans l'armée, c'est en fait la Chine du passé. Ce n'est plus le cas. Parce que à l'époque, le gouvernement demandait surtout la discipline, demandait aussi d'obéir les ordres. Et donc, c'était à l'époque, les gens devaient le faire. Et maintenant, ce n'est plus le cas. L'image que vous voyez, si vous partez maintenant en Chine, vous verrez une image différente. Donc maintenant, la méthode, c'est l'économie. Parce que tout le monde a besoin de travailler, tout le monde veut gagner un salaire, et donc maintenant c'est l'effort qu'on met et l'effort, l'idée de devoir faire des efforts pour pouvoir vivre, ça c'est l'idée actuelle et aussi le contrôle actuel des gens. Pourtant, si le niveau supérieur souhaite, on peut baisser le salaire et donc on donne l'impression aux salariés qu'il faut faire encore plus d'efforts pour gagner encore plus d'argent. Et dans le film, on peut voir les personnages que leur salaire moyen, en moyenne, tous les mois, c'est environ seulement 600 euros. Et je trouve c'est une méthode encore plus cruelle qu'avant, parce que maintenant les gens sont on dirait mentalement forcé à continuer à travailler jusqu'à très tard, même à 23 heures le soir, pour penser que je pourrais gagner plus d'argent. Avec cette idée-là, je trouve que c'est encore une autre méthode pire qu'avant. Donc, je trouve chaque génération est la même. On vit la même histoire.
Donc il n'y a pratiquement pas de progrès matériel face à des générations précédentes. Malgré le travail, la charge de travail, les gens sont assez détendus, ils font des blagues, ils se bagarrent, ils sont jeunes quoi. Je me demande si ça, ce n'est pas, disons, une forme d'indiscipline qui en germe, qui va peut-être déboucher sur quelque chose de différent, sur une conscience politique plus affirmée.
Je trouve que ce n'est pas le cas, parce que même si maintenant on a le pouvoir concentré, mais ça ne va pas jusqu'au point où le sentiment des gens est aussi sous contrôle. Tant que les gens vivent à l'intérieur dans une zone où l'autorité chinoise admet, on trouve qu'on est assez libre. Mais dès qu'on touche la bordure de cette zone permise, on se réalise tout de suite qu'est-ce que c'est la liberté, finalement.
Le rôle des jeunes filles est aussi très important. On voit qu'elles tiennent tête aux garçons. Donc, on constate une égalité entre les sexes. Est-ce que c'est une image trompeuse ou là aussi, il faut un peu décrypter tout ça?
J'ai jamais voulu montrer quelque chose social ou même social psychologique. J'ai juste montré la nature des gens et comment les gens vivent. Mon film ne porte pas de science, conscience politique dans ce sens.
Un article de l'hebdomadaire américain The Nation qui était intitulé « The World's Hardest Working Director ». Un article consacré à votre travail, donc le réalisateur qui travaille le plus dur au monde. Est-ce que vous reconnaissez dans ce titre d'article? Et si oui, est-ce que ça vous donne aussi une certaine légitimité à filmer ces jeunes qui sont au travail pratiquement 20 heures par jour?
D'abord, il dit que c'est pas vrai que les jeunes travaillent plus que 20 heures. Ils travaillent de 8 à 23 heures, donc c'est pas 20 heures. Par rapport au titre « Le réalisateur qui travaille le plus dur du monde », il trouve que ce n'est pas complètement vrai non plus, parce qu'il y a des moments où je ne fais pas de film non plus. Mais je crois que les gens savent aussi que c'est une grande masse de travail pour faire un film, et de longues heures aussi tous les jours. Et donc il y a beaucoup de matériaux à traiter, et donc c'est pour ça que les gens ont cette impression.
Je voulais en venir en fait aussi aux conditions de tournage de ce documentaire. Vous avez filmé pendant 5 ans, avec des interruptions j'imagine, mais pendant une longue période. Et donc ce qui est étonnant, c'est que vous avez pu filmer par exemple des scènes de négociations entre les travailleuses, les travailleurs et leurs patrons, des discussions parfois très tendues. Comment ça se fait que vous ayez pu assister à ces scènes-là?
Puisque c'était dans une petite ville où on a fait le film, et donc il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait beaucoup de travailleurs et aussi beaucoup de magasins, mais c'était quand même une petite ville. Et donc les patrons, c'était des patrons des petites ou moyennes entreprises et tout le monde a plus ou moins une bonne relation avec moi. Et donc c'était assez libre pour moi de pouvoir filmer des moments même si vous trouvez plus difficile à obtenir. Au dernier siècle, on a toujours pensé au marxisme où la relation de l'entrepreneur ou du patron envers les employés, c'est souvent de l'exploitation. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Puisque les patrons que j'ai filmés, entre guillemets, ce sont aussi des gens qui ont été contrôlés par le marché parce qu'ils n'avaient pas assez de profit à cause de cette main invisible dans le marché et que s'il n'y a pas assez de profit, peut-être déroulent un business pendant un an et ils font beaucoup de pertes et donc ils ne gagnent pas assez d'argent non plus pour payer les employés. Et donc les employés, quand ils négocient pour le salaire, peut-être le patron doit aussi évaluer selon son profit. Et donc, est-ce que c'est vraiment une relation rivale? Ce n'est pas vraiment le cas, parce que le patron doit aussi considérer comment gagner assez de profit pour pouvoir payer les employés. Et les employés veulent aussi, bien sûr, un salaire attirant ou au moins correct. Et donc, qui exploite qui? On ne sait pas. D'où vient l'argent ou où l'argent part? On ne sait pas non plus. Je dirais que c'est difficile de voir clairement dans notre époque.
Une question qui est importante, c'est est-ce que vos films sont montrés en Chine? Et si oui, quel est l'impact de votre travail là-bas, dans votre pays natal?
Non, ce n'est pas au cinéma en Chine. Jamais été le cas.
Mais vous avez une certaine liberté quand même pour réaliser vos films ou là vous faites un peu en douce avec un matériel très léger?
Effectivement, en Chine, j'ai utilisé des matériaux relativement légers, puisque, vous savez, le monde cinéma en Chine, le contrôle est assez serré. Et donc, pour faire des films de fiction, il y a beaucoup de limites pour moi. Et que, par contre, le moyen documentaire, le film documentaire, on peut aborder beaucoup de sujets différents et beaucoup de thèmes différents. Et aussi, par rapport au matériel, donc on a eu l'invention de mini-DV, et ce qui m'aide beaucoup à faire des films. C'est très léger.
Donc c'est des raisons plutôt matérielles, des contraintes qui vous ont amené vers le documentaire, ou alors vous aviez déjà des exemples, des documentaires que vous vouliez imiter? Vous avez aussi tourné, je crois, un ou plusieurs films de fiction, mais c'est surtout le documentaire qui est votre genre de prédilection.
Premièrement, c'est le coût. Donc, la production d'un film est assez coûteuse, surtout pour les films de fiction. Et donc, pour les documentaires, c'est plutôt facile pour moi de gérer. Et deuxièmement, aussi, le contrôle de la société. Donc, pour moi, ça m'influence aussi. Et donc, le choix de faire le documentaire me facilite.
Vous resterez un homme du documentaire?
Pas sûr, parce que je m'intéresse aussi à l'art contemporain, et pas sûr.
Comme ici, au Ratskeller à Luxembourg, c'est une installation d'art contemporain. Est-ce que votre cinéma et l'art contemporain, c'est un peu la même chose, ou alors c'est une façon d'exposer votre œuvre qui est un peu plus difficile à exposer dans les cinémas, disons, traditionnels, parce que des films de 3, 4, jusqu'à 9 heures, c'est un peu difficile à faire voir dans un cinéma, en fait.
Traditionnellement, quand on pense au cinéma, c'est plutôt vidéo, image, etc. Et vice-versa, donc vidéo, image, c'est aussi les éléments principaux du cinéma. Et donc maintenant, si on parle de l'art contemporain, surtout vidéo contemporain, c'est aussi une façon de montrer créer les expériences, une expérience d'art pour les spectateurs. Parce que les spectateurs, à travers la façon de filmer, la façon de raconter, la façon de narrer, on peut avoir une expérience avec les vidéo-arts plus complète que le cinéma. Parce que le cinéma, c'est quand même relativement indépendant que, relativement que les autres.
Merci de Madame Qin Wanting für die Übersetzung. Wir bleiben in China. Ein junge Frau aus der Côte d'Ivoire lässt am letzten Moment ihre Hochzeit platzen, für aus China auszuwandern. Da verliebt sie sich an einen Teehändler. Black Tea ist der neue Film von Abderrahmane Sissako, den 2014 mit Timbuktu international bekannt geworden. Der Chef Schinke hat mit Abderrahmane Sissako geschwärzt.
你好，艾雅。你好啊，小文。
Le rituel du thé est un rituel, contrairement à prendre un espresso, par exemple, qui prend pas mal de temps, où c'est vraiment le côté rituel et tout ça. Entre Timbuktu et Black Tea, il s'est passé aussi pas mal de temps. Est-ce que cette lenteur ou ce temps de réflexion a été bénéfique?
Je pense que le temps, de façon générale, est bénéfique. Si on arrive à vivre ce temps. Je pense que le temps est important dans la relativité des choses. Timbuktu, c'était 10 ans. Et je n'ai pas été dans le réflexe de faire un film tout de suite, parce que ce n'est pas ça qui m'anime, en fait. Mais en 10 ans, j'ai pu faire un opéra au Théâtre du Châtelet, donc qui m'a pris 2 ans et demi avec Damon Albarn comme compositeur. Donc ça a été une grande aventure musicale, humaine aussi, parce que c'est le théâtre vivant. Aussi, j'ai un garçon qui a 9 ans, donc dans ma vie, il n'y a pas que le cinéma. Avoir un enfant, s'occuper d'un enfant, ça remplit le temps aussi, et ça nous mûrit aussi, on grandit avec ça. Et donc, je n'ai pas vécu les choses de cette façon-là. Pour revenir à Black Tea, j'ai dans un de mes films, En attendant le bonheur, une petite scène où il y a un Chinois qui dîne avec une Africaine. Nous sommes en 2000. C'est une rencontre amoureuse et après, le Chinois, petit karaoké, lui chante. Donc c'était pour moi, il y avait déjà une Afrique qui était une relation Chine-Afrique qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire l'immigration chinoise aussi en Afrique, des rencontres, des peuples qui semblent être très différents, mais il y a pas, voilà, c'est pas aussi différent que ça. C'est ce que j'appelle le monde des petits gens que ces rencontres. L'immigration chinoise en Afrique, dans sa grande majorité, c'est les petits gens. Donc les petits gens se rencontrent plus facilement, voilà, que d'autres. Et donc pour moi, c'était important d'aller vers ça, de montrer cette Afrique aussi qui est en train de naître.
Mais avant que votre personnage principal ne s'aventure à Guangzhou en Chine, il y a d'abord le début du film qui se passe en Côte d'Ivoire et c'est une femme qui, au moment du mariage, dit non. Est-ce que ce Tinkipi, donc cette première scène était là dès le début? Est-ce que c'était une nécessité de d'abord la filmer en Côte d'Ivoire avant de la faire partir?
Oui, tout à fait. Je voulais, dès le début du film, montrer non seulement une situation conflictuelle, mais un choix radical. Dire non le jour de son mariage, quand on a une 30aine d'années, et c'est dire non à la société, à ce qui est établi, et donc c'est pas une décision facile. Mais je voulais montrer la capacité aussi de révolte d'une personne ou d'une femme qui décide de faire autrement, en quelque sorte. Et ça, c'était dans une forme assez frontale. Et elle part, mais elle part où? Elle part en Chine, presque sans une vraie transition. Hein. Donc elle part. Pour moi, ça, c'était important. Comme ça, on voit déjà la personnalité de Aya. Elle est capable de partir, elle est capable de construire, de faire des choix pour elle.
Le film de Mati Diop qui a eu l'Ours d'Or d'Ahomé, on a fait évoque la restitution de 26 objets artistiques au Bénin. Donc là, c'est un film, on va dire, peut-être classiquement c'est un documentaire classiquement post-colonial, en sens où c'est le rapport de l'Afrique avec l'Europe, ce qui est toujours un peu au sujet du post-colonialisme. Et là, en fait, vous explorez des rapports différents, l'Afrique et la Chine. Comment ce choix s'est fait?
Donc, bien sûr, le sujet du film de Mati Diop est très important et qu'elle affronte cela, et puis dans le documentaire, parce que Mati Diop a fait encore, a fait des documentaires avant, donc elle a cet intérêt pour le documentaire, et pointer je dirais, injustice, voilà, du vol d'objets très importants pour la société, et me semble bien. Et donc, on est dans un tournant où les choses se disent aussi, hein, où le monde ne sera pas pareil. Et moi, je raconte aussi un monde sans l'Europe, parce qu'il n'y a pas que l'Europe aussi, et que l'Europe est peut-être un peu trop renfermée sur elle-même, et donc ne voit pas le monde changer, le monde se développer. Et donc, c'était important que le cinéma, que dans mon travail de cinéaste, je puisse montrer ça.
On parlait de l'europocentrisme, on va dire. Ça m'appelle un peu l'essai de Edward Said, Orientalism, où il dit aussi que l'orientalisme est une construction européenne. Et donc, le choix de tourner le dos à l'Europe ou de l'exclure un peu du film permet vraiment aussi d'explorer d'autres facettes et de pas toujours voir les choses en rapport au monde occidental, on va dire.
La capitale du monde, c'est partout. Voilà, je vous parle, pour moi, la capitale, c'est Luxembourg. Dans 3 jours que je partirai chez moi, je suis à Nouakchott. Le monde, c'est Nouakchott. Qu'on le limite et à des grandes capitales ou à des grands trucs, G20, G3, G10, etc. Donc, le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est une dynamique en mouvement permanent. C'est des forces réelles, même si ces forces-là ne sont pas prises en compte. L'Amérique du Sud est extraordinaire avec l'identité, la force, le dynamisme. L'Afrique, c'est pareil. L'Europe aussi, qui a une valeur aussi très forte avec son identité culturelle. Donc, c'est un monde. Le monde est riche de cette façon-là. Donc, c'est dommage d'exclure une partie du monde dans la définition du monde ou dans les avancées du monde, dans les choix aussi du monde. On voit que on est dans des paradoxes incroyables. Quand on voit dans les Nations Unies, il y a 5 pays qui peuvent décider un veto. Donc on est dans un monde qui n'est pas juste. Même pour un cessez-le-feu, si un pays s'oppose, il n'y a pas le cessez-le-feu. Donc c'est ce principe du veto qui déséquilibre finalement. Donc il faut qu'on soit dans un monde plus ouvert, plus participatif, et que chacun puisse ouvrir ses yeux aussi, que l'Europe ne soit pas aussi pour les Africains une terre, un Eldorado, parce que ce n'est pas le cas, que les gens puissent aussi penser que chez soi construit des choses tout en étant ouvert aux autres.
Comme Yaya, elle part, c'est aussi un film sur le déracinement, sur où est-ce qu'on est chez soi, où est-ce qu'on peut trouver un chez soi. Et comme vous le dites justement, l'Europe devient de moins en moins un Eldorado pour plein de raisons et pour beaucoup de monde. Voilà, pour moi, c'est un film sur, c'est ainsi que je l'ai vu, sur le déracinement et sur l'exil, mais aussi sur le fait de se retrouver un peu partout dans le monde, de pouvoir trouver ou d'essayer de trouver un chez soi.
C'est important que la création artistique puisse montrer, proposer des visions différentes. Faire un film, c'est une proposition, c'est une invitation, même à la liberté de l'autre. Mais il faut qu'il y ait une proposition, il faut qu'il y ait une conscience. Il ne faut pas s'auto-congratuler, s'auto-satisfaire. Il ne faut pas définir le bonheur comme si c'était tel. Ce n'est pas ça. Donc c'est important qu'on voit que dans 20 ans, dans 50 ans, les choses vont probablement changer. Et le centre du monde, entre guillemets, va bouger pour être autre chose. Notamment parce que je vis en Afrique, je le sens, je le vois. Mais c'est aussi des deux déclairs. L'Afrique est un continent riche, très riche. Et on a besoin de l'Afrique, plus qu'elle a besoin de l'autre. Elle a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. Mais je le dis ça en termes de réalité économique aujourd'hui. C'est important que l'Afrique puisse se construire différemment, voilà, aujourd'hui. Pas comme dans le passé, où il y a un vrai déséquilibre dans les partenariats qu'elle avait avec, entre guillemets, le Nord.
D'ailleurs, dans le film, il y a une scène que j'ai trouvée centrale, où Aya doit se cacher parce qu'on a honte d'elle. Le racisme n'est pas le thème principal du film, mais quand même, il y a quand même cette scène que j'ai trouvée choquante, mais qui m'a tout de suite frappé dans le film, où elle doit partir, elle ne peut pas rester dans le salon.
Dans mes recherches, de ce que j'ai vu aussi ou entendu, j'ai vu que il y a beaucoup d'Africains qui ont souffert ou qui souffrent de ce rejet-là. Mais l'Afrique, les Africains ont souvent souffert de rejet, pas seulement les Africains. Dans l'histoire de l'Europe, une histoire récente, on sait que les Italiens étaient rejetés en France. Donc c'était des réalités où mais les choses changent. Dans le contact, petit à petit, on a moins peur de l'autre, etc. La Chine s'est ouverte que récemment. Donc il y a des choses comme ça qui se passent. Et cette scène, elle est importante pour moi. Vraiment, c'est une scène importante où, effectivement, quand Tsai pouvait être courageux face à celle qu'il aime pour s'assumer, non, il n'assume pas. Mais celui qui vient le sauver, c'est quand même son fils qui a 20 ans. Donc c'est la Chine de demain, c'est Li Ben. Donc qui conteste ses grands-parents, qui sont racistes carrément. Donc il se dresse. Voilà, il se dresse contre son grand-père, il dit. Et aussi Ying, donc sa maman, l'ex-femme de Tsai, prend la parole pour effectivement voilà, montrer, être contre ce rejet de l'autre.
Ce qu'on a fait, c'est un film qui n'est pas binaire. Les personnages ne sont pas mauvais ni bons. Et donc, malgré cette scène de racisme, c'est aussi un film sur l'amitié, en quelque sorte.
Oui, oui. Moi, je crois aux rencontres, véritablement. Hein. Je ne peux pas juger un peuple. Je ne dirais jamais les Français sont comme ça, les Anglais sont comme ça, des choses comme ça, des raccourcis, ou les Chinois sont comme ça. Et on n'a pas le droit, d'autant plus lorsqu'on est artiste. Parce que la voix de l'artiste, ça compte. Sa vision compte. Donc il faut une forme, il faut transcender beaucoup de choses pour au moins dans l'œuvre créatrice qu'on ait cet optimisme qui est la beauté au final, et ça c'est important et c'est ce que je crois. Je suis conscient des difficultés du monde, je suis conscient des rejets qui se passent ou même des sociétés qui se referment sur elles-mêmes, ce qui est dommage, mais c'est la réalité, il faut en parler et souhaiter, espérer que les choses vont évoluer et changer.
Parler de rencontres artistiques et d'invitations avant, il y a un lien un peu particulier entre la société de coproduction luxembourgeoise Lion et vous-même, puisque il y a eu un projet de film avec le décédé Paul Courten, qui maintenant a quand même été fait par Fabrizio Maltese, qui s'appelait L'Invitation. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce projet-là?
Oui, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec Paul. Et c'était en Afrique, c'était à Saint-Louis du Sénégal. Il avait été invité par Guy Dalyden. Et c'est intéressant, lorsque les cinéastes voyagent et se rencontrent quelque part, et c'était ma rencontre, on a vraiment sympathisé sur des visions communes de la vie, du monde. Et Paul avait cette idée de venir en Mauritanie et me suivre en quelque sorte dans ma vie, dans ma pensée, les gens que je rencontre, comment je vis. Pour lui, ça pouvait être intéressant, mais c'était toujours un prétexte pour lui. Il vient me suivre, mais il voulait raconter ce qu'il voyait pour la première fois. Malheureusement, on a perdu Paul, il est décédé brutalement. Donc ce sujet n'a pas été abandonné, ce qui est une bonne chose. Et Fabrizio a décidé de le faire. Je pensais que c'était important qu'il le fasse à sa façon et que je ne sois pas vraiment le centre de cette chose-là. Parce que ce n'est pas ça que Paul voulait. Donc moi, je me suis un peu éclipsé du projet.
Ce qui est aussi un running gag un peu dans le film.
Oui, 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 tout à fait. Et donc c'est comme ça, au final, ça a donné ce film qui est un très beau film et qui parle de la Mauritanie de façon magnifique, hein, je trouvais très respectueuse. Et quand je vois ce film, quand je pense à cette histoire, je repense forcément à Paul. Et c'est grâce à lui que l'idée d'une coproduction avec le Luxembourg... Voilà, il m'a dit, écoute, si tu as un sujet, j'aimerais bien qu'on le partage ensemble, toi aussi. Et j'ai dit, oui, j'ai un sujet, j'aimerais le faire. Et voilà, et c'est devenu Black Tea avec la coproduction avec Red Loud.
Et pour revenir à votre film, donc à Black Tea, ce qui frappe un peu dans le film, ce qui m'a frappé moi, c'est certains procédés formels. Il y a, par exemple, pour pas trop en dévoiler déjà aux spectateurs et spectatrices, il y a dès le départ donc la scène en Côte d'Ivoire, puis il y a une ellipse, on le retrouve ailleurs. Donc il y a des ellipses et sont divulguées ce qui se passe à la fin. Il y a aussi une certaine façon de pratiquer quelque chose comme pas de l'onérisme mais quelque chose qui déréalise en quelque sorte qui fait un peu douter de ce qui de la réalité qui est montrée.
Tout à fait. Moi j'ai essayé de déréaliser un peu. Il y a de l'onérisme dans cette façon de filmer. Tout le film se passe pratiquement la nuit à part une sortie dans un champ de thé qui est le jour ou le voyage de Sai et en Afrique au Cap-Vert. Donc on est dans la nuit, on est dans le ruisse, on est dans les reflets de lumière et tout ça. Effectivement, ça contribue à nous garder dans cette forme d'intimité qui, pour moi, est le film, et c'est tout à fait vrai.
You know what I was doing last night?
No, but whatever it was, you sound very excited.
Keep the lights on. Love is strange. Frankie, Passage.
My party and my husband doesn't want to dance with me.
Das sind ein paar von den Filmen vom amerikanischen Realisateur Ira Sachs, den am Lux Filmfest die internationale Jury präsidiert hat.
Ira Sachs, hello.
Hello.
You are an American director and actually a very European film director, and you shot the two last movies in Europe. Frankie was in Portugal and Passage in France. Why the choice in the first place to go to Europe and shooting films there?
I think it's a combination of having stories to tell in those two countries and those two cities. But also there is an economic possibility here that I can't turn away from, that's been very significant for my career. And there's a kind of cinema that I see in Europe being made that is harder and harder to maintain as a filmmaker in the U.S.
You're an independent American filmmaker, but would you say that the love for European films, and specifically French and, let's say, Italian, is a specific feature of independent American filmmaking?
I can't say that generally. I would say that for me personally, I really have gone back, particularly to French cinema, but you're right, also to Italian, and also maybe Asian cinema and Indian cinema, and the cinema of the world has been the cinema that's been the most influential to me. I discovered movies as a passion when I was in college. I lived in Paris. I was there for 4 months, and I saw 197 films. And I discovered voices that I had never been exposed to in America. And it really changed my life, and it changed the course of my aesthetic interests.
For the British magazine Sight and Sound, you had to pick your 10 favorite films ever. I don't know if it's still up to date, but anyway, you are citing lots of French movies, and specifically also Maurice Pialat, who is known for his very emotionally, very strong, emphatic movies. And your cinema seems to be very different. It's not emphatic. It's quite gentle. It's very low key in at least in the tone of your films. Would you agree?
Yes, but Pialat can teach you many different things. And I think in French cinema, what I have loved is an interest in the detail of everyday life. Also the drama that happens between individuals that seems to be unobserved, but in terms of experience is monumental. So in a way, French cinema reminds me of the novel, the 19th century novel, in which in which you have writers like Henry James or Edith Wharton, people who are really seeing extraordinary things happening internally and in the lives of individuals. And they're not broad films. They're films of detail. And I think for me, that's very significant.
Emotion in this kind of movies are more interiorized, whereas in typical classical American cinema, it's more like behavioristic.
And it's more narrative in a certain way. It's more genre also. I think, Proust, for example, is to me the greatest writers ever and talks about everything, but does it through a very personal lens. And so I try to, I feel the only way I can be an artist is to maintain a connection to what is personal for me.
What characterizes Proust is this autobiographical stance as an artist. And what you've been doing is telling the story of your life.
Yes and no, I would say. I mean, a couple of my films have been really very autobiographical. But there's a difference. In a way, I wouldn't say all of them have. Some of them are certainly stories that are not my own. That being said, each film represents me at a certain moment in my life. What compels me? And I would say, like, my early films were extremely anguished. What was hidden in my life specifically as a gay man, as a coming of age, a person who was trying to understand myself, there was so much that was hidden, and my films were all about that. And at a certain point now, as an older person who has sort of become more comfortable with myself, the tensions are often more external in a way. There are things that are happening to people. So the films look and feel like me. And I think that's what I like in a film, is when I feel the artist is visible.
Hey, boy. How you doing?
Fine.
You don't remember me, do you?
I remember you.
we go back to your first feature film, which was in 97, The Delta, the main character was also very indecisive. He didn't know whether he was gay or heterosexual. Did this indecisiveness also reflect your own stance as a director in general, not only referring to the sexuality, but did you seek for your direction as a director at that time?
Yeah, I look at that film and I think, oh, I was watching too much Fassbender. Like, it was a period in which I was trying to model myself after other directors and other works. That being said, there's something very honest about my earliest work, because I didn't have things that I was trying to achieve that were external to me. I was really just focused on what is the story, what is the story, what is the story. And I was not someone who went to film school. I applied to film schools in the U.S. I got rejected from all of them, and I started making films without a formal education, except as a cinephile, someone who had seen lots and lots of movies. So my teachers were Piela and Cassavetes and Altman and Chantal Ackerman. These were my teachers. And I think there is something very honest about that. I was aiming high. I wanted to make something that was really true to me. And I've tried to hold on to that.
When we look back on your career, which now goes over three decades, you are dealing mostly with gay couples. And would you say that in these three decades, you managed to map out, like, let's say, the evolution of what it means to be a gay couple?
I would say the films have changed a lot. I mean, if you look at The Delta, which was my first film that you mentioned, it was really a film about what was hidden, what was illicit, what was secret. And if you look at Passages, nothing is hidden, nothing is secret. There's still pain in both stories. There's different kinds of pain. But I think the kind of visibility and transparency that you see in a film like Passages connects to the change of the times in a certain way. These characters are not hiding themselves. They're trying to figure out how to live.
In the couples you are depicting, there always seems to be one person that has to suffer in love. That's the person who is more in love than the other one, and he has to sacrifice himself in a way.
Well, I think films are made of drama, so you have to have a gap in when you're making narrative work between what people have and what people want. I wouldn't necessarily say there's only one person who's suffering. I think what's dramatic to me is trying to create a situation in which the audience shares the desire of the characters. So each of them, I think, has a desire that is just out of reach. And that's what makes the film sort of suspenseful. I think of my films as action films and suspense films, even though they're very personal films and films about relationships.
AIDS, for example, that's something you would expect talking about gay movies, but AIDS is not that much of an issue in your films. Was that also a conscious choice to avoid this, what has become a cliché?
Yeah, I don't think of AIDS as a cliché because it was too significant in my life and the life of my community. I'm actually working on two films now about artists who died of AIDS in the early 90s. I think that for me the impact of AIDS to a very personal extent has been the a disappearance of a generation of queer artists that I might have learned from and gained from. In the impact of that, I actually started an organization called Queer Art, which supports LGBT artists in film, but also in visual arts and literature. And I feel like I'm still looking for that generation. And the absence of that generation has been one of the most important things for me because I've had to sort of figure everything out on my own. We've also lost an audience, by the way. That's something that people have remarked upon, is that the death of a generation to AIDS means there were a lot of people who weren't there to see the work that we might make and sustain the work we were trying to make.
Well, of course, AIDS had a devastating impact, especially on gay people, on gay community. Yeah. But what I was alluding to is that a gay film doesn't necessarily have to be, let's say, Philadelphia. You are focusing on other things like right. love, like the life of a couple.
Yes. Yeah, I mean, it's interesting. I think it's also hard to talk about illness and death, right? Like it's very, and in a way, I'm more interested in that right now as I get older, because maybe because I'm closer to death. There's a way in which those things seem really relevant to me. Yeah, I mean, I think the advantage I have as a gay person making films and who's trying to continue to be honest about my own experience is that I'm doing something from the inside, and really so much of what I've tried to have in my own life is the creation of family and the creation of love relationships. And now I'm a parent. I have two kids with my husband, and my kids have two moms also. So we're creating a new kind of family. And I think I find so much drama in the domestic, what we do intimately with each other, how we fail each other, how we can love each other.
Glasses. I can't find my glasses. Has anybody seen my glasses?
Please, God, not today.
We are gathered here today with the purpose of uniting in matrimony George Esteban Garea Benjamin Arthur Hull.
Yes!
Yes! Yes!
Your love, your dedication, your commitment to each other are an example to be followed.
Love is Strange was a real change in my life, because it was a film about the possibility of real and trusting love. And I didn't have that possibility before I made that film in a certain way. It was very new for me as a possibility. So there's a kind of new romance, maybe. I feel like my early films were highly tortured, and my later films, there is more of a possibility of joy.
Love is Strange is also a film about an older gay couple. We are used to see gay films in connection with youth, yeah. And this is also like you're breaking with that cliche.
Yeah, people ask about sort of, oh, you don't do stereotypes, oh, you don't do cliche. I just try to make good work. So like if my goal was to do a stereotypical work, then I would be failing, I guess. So I think I might not always succeed, but I aim high, and I try to make things that have depth. And so characters need to have contradiction and complexity. And you know, I think one of the things that's really different about feature filmmaking as opposed to series and television, one of the things is that there's a lot of room for ambiguity. And so I want to keep the space for questions that an audience might ask. And I think that's harder when you work making series, for example, because you're working in a more corporate world where everything needs to be clear in a certain way. So I'm influenced by films that still allow space for abstraction. Yeah, I mean, for me, the challenge is how do you keep going? How do you get the money to keep going? And I think film festivals are really helpful because you create bonds with people, you meet people, and you have a sense that the work you're doing has meaning.
You mentioned the word queer. A couple of months ago, Luca Guadagnino, the Italian filmmaker, had a discussion here in Luxembourg with João Pedro Rodrigues, who is a Portuguese filmmaker. Both of them refused the label queer. They didn't identify with that.
Oh, I think it's a generational thing. They're men of a certain age, and I think that they...
It's your generation.
It's my generation, right, I know, but I'm saying they're old men, like myself. So I would really have liked to be a fly on a wall and see Luca and João Pedro talking, because they're so different. It must have been interesting. How was it?
It was very interesting.
João Pedro, I know well and adore. I don't know Luca. But I think, you know, they're contrary people, they're contrary voices. When I started this organization, Queer Art, 12 years ago in New York City, I wasn't that comfortable with the word queer either. But it was actually a good term to refer to the diversity of voices in the community that I lived in. I haven't found a better word. than that to describe the community I'm a part of, which is not a gay community, is something different than that. Gay defines me. I'm a gay man, but I'm part of a queer community.
Well, what they said, they acknowledged the fact that queer and queer festivals gave visibility to a cinema that otherwise wouldn't even be shown.
I would have liked to argue with the two of them. That's all I'm saying. You know, I would be like, come on, old guys, get over it. Like, the language is imperfect by nature. So, but sometimes you need words that actually can bring people together, and queer has been one of those words. It also gives people a space to be flexible, let's say, to be fluid. And I think that's very significant. I'm curious why they said they didn't like that word.
Well, because it's something like a box you put someone in, and he has to stick in that in these boundaries.
Yeah, I mean, I think we're both avoiding. I think that that's a very complicated way to say I don't want to be limited economically, which I understand, but. Yeah, I mean, they have very different careers. I think what's interesting is how many people who have started their work with very gay work, let's say, who have had to move away from the most personal kinds of storytelling in order to be to maintain their careers in this particular industry. So you look at gay directors and you can say, where did their gay characters go? They disappeared. And I think people are struggling internally with those choices as artists. But we're all navigating economics, and we're all navigating what seems possible, and we're all also being influenced by the dominant, which is not queer. You actually see a whole movie in those conversations that people are having with themselves, because they're both comfortable and uncomfortable with their difference, and they're trying to navigate that difference in a way that seems palpable to the public and to the people with money and to themselves. And that's actually, there's a lot of pain in there, which I find very interesting. Henry James would write well about it.
We've been talking about gayness, but that's only a part of your identity, also Jewish. But strangely, it seems that this part doesn't influence your films, at least not directly.
Yeah, I'm also a white American man. I would say that the first thing that when I walk into a room, the power that I assume has to do with my masculinity, has to do with my gender. Almost before anything, that's really what defines me in the world. So each of these things are part of how I experience life and how other people experience me. I think my queerness is there's a lot of desire in that, and desire for me is very narrative, and it's also kind of exciting. Right? It's cinematic, just much more than my Judaism. My Judaism is also very, very passive, meaning I come from a heritage of Jews, and I relate to Jews in a really personal way, like I relate to queer people differently, but similarly, when I meet a Jew, I grab and hold them. That happened last night. Suddenly there were three of us, three Jews on the jury, and we were all talking about, talking in a certain way that was similar. So I think it's an essential part of me, but it's a less narrative part of me.
Is this the reason why you associated with 50 other international filmmakers last December to ask for a ceasefire in Gaza? Yeah. What's your relationship with Israel? I know it's a very broad question to be dealt with in very few words now.
Yeah, I mean, I think that I'm certainly been upset by what's been happening in the Middle East, including what happened on October 7th, but has continued to happen with the invasion of Gaza. So as an artist, I feel I have some voice that I try to use, which is to ask for a ceasefire, to say that there must be other ways besides violence to find peace and to find safety.
Thank you very much, Ares Sachs.
Thank you.
An dat wäret fir dese grosse Kinospezial. Mir heieren neist den nächste Samsten, selwecht Platz, selwecht Zeit, bis du ich schon mal e guten Appetit. Das 12 Uhr.